Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par la une de vos journaux. Et la démonstration de force des policiers à la une d'aujourd'hui en France, qui revient sur le succès de la manifestation hier devant l'Assemblée nationale. Plusieurs milliers d'agents rassemblés pour exiger une justice plus sévère. C'est aussi la une de Ouest-France avec cette citation « Écœuré d'être pris pour cible » et l'image en première page d'une foule compacte et masquée sous la pluie. Après la pluie, le bon temps, titre de son côté Libération, parti comme de nombreux médias à la rencontre d'une France avide de retour à la normale après le déconfinement. Presque comme avant, résume le populaire du centre aux terrasses des cafés, quand le Berry républicain salue la culture qui entre à nouveau en scène avec un concert de piano en première page. Vers l'espoir d'un apaisement au Proche-Orient et Israël qui pousse son avantage avant un cessez-le-feu, ça c'est la une du Figaro. Israël toujours soutenu par les États-Unis qui bloque, on vient de le dire, la résolution française au Conseil de sécurité de l'ONU. Et sur place, une coexistence à rebâtir, titre La Croix, dans les villes mixtes où vivent juifs et arabes israéliens. Des villes habituellement calmes mais qui se sont embrasées depuis 10 jours. Sud-Ouest nous dévoile, lui, une méthode pour apprendre l'anglais sous hypnose à l'école, very well. Pendant que le Dauphiné libéré lance encore l'alerte sur les conditions de neige qui restent très dangereuses en montagne. Encore 2 avalanches meurtrières hier près de Chamonix. Et puis, signé Mbappé, l'équipe sous le charme de la performance du kit de Bondy. Grand artisan de la victoire du PSG hier soir en finale de Coupe de France. Paris qui s'offre une coupe, titre La Voix du Nord, c'est d'actualité. Victoire, on vient de le dire, 2-0 contre Monaco. Les 3 histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin Roche, on commence avec vous.
Associer les mots guerre et surf. Ça semble pas naturel et pourtant, sur les plages des Landes et du Pays Basque, on ne rigole pas avec cette pratique reine de la côte atlantique, c'est-à-dire dans Society. Dès aujourd'hui, menaces, agressions, insultes, des planches cassées en deux, des voitures badigeonnées de wax. Oh là là, c'est de la cire appliquée sur la planche. Je voudrais pas voir ma voiture comme ça.
Non.
Surfeur et cool, c'est terminé. On défend son territoire. C'est ma vague. C'est mon spot. Il arrive désormais que les touristes ou les nouveaux venus dans la région qui espèrent choper une déferlante, face les frais de locaux pas commodes. Ces non-locaux sont surnommés les go-home. Rentrez chez vous.
Il faut se détendre un peu, là.
Voilà pour le message de bienvenue. Non, le surf, c'est pas cool. Il y a des codes, une hiérarchie. C'est un sport difficile qui demande de la persévérance. Celui qui a surfé toute sa vie acquiert une certaine légitimité. Et comme partout, c'est vrai, un minimum de civisme est apprécié. Donc, à l'eau, il y a un ordre établi, un roulement naturel. Quand on apprend à surfer, on assimile toutes les règles qui vont avec et qui restent indissociables de la pratique. Ce sont en général des règles tacites. Et les plages ne sont pas extensibles. Le surf a le vent dans le dos. Pas simple donc de voir des nouveaux nombreux affluer, même l'hiver. Voilà, c'est Aristide qui raconte. Après avoir cagnassé toutes les vagues, comprenez qu'il n'a pas attendu son tour. Le mec inconnu au bataillon tombe sur ma planche. Alors forcément, Aristide, local, voit rouge. L'ennemi, c'est donc le touriste. C'est celui qui s'installe. Même s'il est installé il y a 20 ans, il est quand même
le
nouveau.
Hein. Ouais.
Et des non-locaux, qui veulent faire, je cite, plus locaux que locaux. On les appelle les biarritziens, contraction de Biarritz et de Parisien, en opposition aux biarro. Je ne vais pas aller là-bas. L'ennemi, ça peut être aussi le surfeur du département voisin, hein, T64.
Ah, y a des
derbies. Oui, Pyrénées-Atlantiques, tu ne vas pas surfer chez les 40, tu ne vas pas dans les Landes. Qu'on se le dise, le local trouvera toujours moins local que lui. Donc, gare aux pancartes à l'entrée des plages où il est inscrit « Locals only », locaux seulement. Ces locaux craignent l'invasion cet été, il faut bien les comprendre aussi. Mmh. On est au mois de mai et Society nous dit que la peinture sur la pancarte « Locals only » est toute fraîche.
Merci, Omblin Roche. Effectivement, il va falloir voir comment ça se passe après le grand déconfinement et les vacances d'été, la guerre des surfeurs dans Society. Une publication sensible qui fait débat, mais qui part d'une volonté de critiquer, de mettre à distance les écrits d'un livre terrible tombé dans le domaine public et donc disponible à tous depuis 5 ans maintenant. Les éditions Fayard vont faire paraître dans 2 semaines une version critique de Mein Kampf, le funeste ouvrage d'Hitler. Et c'est un article de La Croix qui nous explique leur démarche ce matin. N'importe qui peut aujourd'hui, en 2 clics sur Internet, trouver le livre original tel quel, qui se vendrait encore à 1000 ou 2000 exemplaires par an, puisqu'il est tombé dans le domaine public. Et ça pose évidemment un problème aux historiens pour qui il est important de mettre un filtre à ses propos antisémites, bellicistes et annonciateurs du régime nazi. Depuis 10 ans, les équipes de la Maison Fayard ont donc mobilisé un comité scientifique, des traducteurs, une douzaine d'historiens pour travailler à un ouvrage critique. Et ils ont abouti à ce livre qui paraîtra donc dans 2 semaines, un livre de 1000 pages dont la qualité scientifique est saluée. Ça a été un vrai défi à restituer la folie, le caractère confus, obsessionnel des écrits d'Hitler, explique un traducteur, tout en les mettant à distance avec des introductions, des notes de bas de page qui aident à contextualiser, déconstruire, faire le lien surtout entre la vision du monde exposée par celui qui n'est pas encore devenu le Führer à ce qu'adviendra ensuite le régime barbare que fut le nazisme. Qualité scientifique de l'ouvrage, je le disais, plutôt saluée par le milieu, même si certains historiens mettent en doute l'intérêt d'un tel ouvrage. Si c'est pour diffuser des savoirs à destination des étudiants, par exemple, pourquoi ne pas s'en tenir à une édition numérique, se demande un universitaire interrogé par la croix, parce que le risque, évidemment, dit-il, c'est de sacraliser en fait l'objet de ce livre en prétendant au contraire le démythifier. Pour cela, Fayard a pris quelques précautions. Il y aura un système de commande chez les libraires qui ne pourront pas l'exposer sur leur table. Envoi gratuit surtout à des bibliothèques pour bien en faire un objet d'étude et pas de propriété. Très critiqué pour avoir gagné de l'argent en publiant la première version en 1938, la maison d'édition en reversera cette fois-ci l'intégralité des bénéfices à l'association des rescapés d'Auschwitz-Birkenau. C'est assez passionnant, ça fait un petit peu peur, mais on comprend mieux l'initiative de la maison Fayard. Cet article est donc à lire dans la croix ce matin. Tout autre chose, Martin Lange, pour terminer avec vous.
Un petit peu moins sérieux avec cet Américain qui a trouvé le bon filon, puisqu'il vit tout seul dans un palace 5 étoiles new-yorkais depuis le début de la pandémie. Imaginez Théo, hein, le rythme. Pour vous, tout seul depuis plus d'un an.
Là, il n'y a pas d'histoire de locaux, de guerre. Le mec est tout seul dans son palace.
Quoi. Il est bien.
Pas de bagarre. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, en mars de l'année dernière, au moment du premier confinement, les pompiers new-yorkais ont annoncé que tous les immeubles devaient être gardés par au moins une personne. C'est là que Robert Malia, 36 ans,
Je suis volontaire.
Exactement, célibataire, sans enfant, se porte volontaire pour garder The Chatwall, un hôtel de luxe de Times Square. C'est son entreprise qui lui a proposé, vivant dans un petit appartement de Long Island. Il n'a pas hésité longtemps et maintenant, ça fait 14 mois qu'il vit là.
Bon, c'est grand, un palace. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y fait depuis 14 mois ?
Eh bien, il y a un emploi du temps très chargé. Théo, c'est lui qui gère les affaires courantes. Tri du courrier à 5h30 du matin, inspection de l'hôtel. Une fois par semaine, il doit tirer toutes les chasses d'eau du bâtiment.
Oui, ça doit prendre un certain temps.
Et 2 fois par mois, allumer tous les lavabos et les douches pendant 10 minutes. Ça semble pas très compliqué, mais il y en a des centaines. Sans oublier que c'est lui qui doit faire le ménage. Encore une fois, c'est très grand. Comme seule compagnie, il peut compter sur des agents de sécurité et l'ingénieur en chef de l'immeuble qui passe une fois par semaine vérifier l'alarme incendie. C'est cette solitude qui lui pèse le plus. Robert Malia espère profiter de l'assouplissement des contraintes et de la réouverture prochaine des hôtels pour rentrer chez lui. Être à la maison me manque, explique-t-il au New York Post. Sur le papier, ça faisait rêver, mais 14 mois dans un hôtel de luxe, en fait, on s'en lasse vite. L'homme qui vit seul dans un hôtel 5 étoiles, c'est à lire sur Slate.
Merci beaucoup Martin, merci Omblin, merci pour ce pressing, à tout à l'heure.